olsun, çoluğumuz çocuğumuz gelsin.
Et on enchaîne tout de suite avec l'interview en direct au téléphone de Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Bonjour, merci à toi d'être avec nous, même par le biais du téléphone.
Avec plaisir.
Voilà, donc aujourd'hui Sylvain, donc tu es au téléphone pour nous, pour témoigner de ce qui s'est passé vendredi dernier à la ZAD du Testé. C'était prévu et c'est hélas arrivé. Expulsion donc du campement. Si tu peux déjà donc, premièrement, voilà, témoignage de ta part, ce que tu as pu voir sur place.
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que donc effectivement, on s'y attendait un petit peu. On avait du monde qui surveillait les activités au départ des commissariats. Donc, vers 8 heures, il y a une trentaine de véhicules, des CRS, des gendarmes qui sont arrivés. Il y avait peut-être 150 personnes de leur côté avec les camions du Conseil général, donc pour embarquer tout ce qui traînait et détruire tout ce qu'il y avait à détruire, quoi. La façon dont ça s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés d'abord du côté de la métairie. Donc les occupants, ils ont posé une résistance symbolique. En particulier, il y en avait sur le toit, donc histoire de freiner un petit peu tout l'expulsion, de laisser du temps aux gens de s'organiser, etc. Mmh. Donc ça s'est fait. La préfecture, il y avait Madame la préfète et il y a un représentant du Conseil général, M. Mathieu, qui est en charge des questions de l'eau et de la protection des zones humides, justement, au Conseil général du Tarn. Donc, c'est un poste un petit peu d'équilibriste, quoi. Et donc, ils étaient là pour superviser l'expulsion. Ils voulaient pas, ils n'avaient pas intérêt à ce que ça se fasse de façon avec des éclats ou médiatiquement dommageable pour eux. Donc, en gros, l'expulsion s'est faite de façon négociée. Hein. On est parti. On a pris notre temps, mais on est parti. De toute façon, le but, c'était pas de se battre pour protéger les cabanes, etc., puisqu'il n'y avait pas de menace de déboisement immédiat. Mm-hmm. Et après, donc, une fois que la métairie a été dégagée, eh bien, ils ont détruit tout ce qu'ils ont pu. Ils ont un peu bousillé les jardins potagers. Ils ont endommagé le four à pain. Ils ont muré les entrées, enfin ils ont condamné les entrées. Au tractopelle, ils ont érigé des tas de terre pour essayer d'empêcher une réoccupation, etc.
Oui.
Et puis ils sont allés au second site.
Alors déjà on précise, donc ça c'est la métairie neuve, on rappelle.
C'est la ferme, voilà.
Voilà, la ferme.
C'est propriété du Conseil général, et le Conseil général la laisse tranquillement se dégrader, alors que dans leur projet, elle ne serait pas submergée par les eaux du barrage. C'est juste une propriété qui est laissée à tomber en ruine. Voilà.
Alors que c'est une propriété qui a, on le rappelle, 3 siècles et qui est magnifique.
Voilà, c'est une superbe ferme en terre crue, hein, pas hyper crue comme on faisait dans le temps, et qui est restée dans son jus et qui a été restaurée par le mouvement d'occupation, puisqu'elle a été laissée à l'abandon, c'est-à-dire que la toiture s'effondrait, la toiture a été refaite par les occupants, la source a été nettoyée, etc. Donc elle a été remise en service, voilà. C'est un bien commun qui était laissé,
d'accord,
qui était voué à disparaître.
Elle est donc murée.
Alors il y a des plaques en acier qui ont été posées sur toutes les huisseries. Et il y a aussi des granges donc qui sont pas fermées par des portes. Mm-hmm. Et c'est là que les tractopelles ont érigé des talus de terre.
Voilà. D'accord. Donc tout ça s'est passé vers quelle heure à peu près, tu te rappelles?
Ils sont arrivés à 8h tout pile, et moi je peux vous dire, moi j'étais sur le toit, je me suis retrouvé à la gendarmerie à 9h15, donc j'étais plié à 9h15.
Donc toi t'as été interpellé en fait.
Pour un contrôle d'identité, mais bon, l'état d'esprit du côté de la préfecture était vraiment pas à la confrontation, parce que mon interprétation c'est qu'ils voulaient pas faire de vagues, et... Mmh. Ils l'ont évité autant que possible, donc ça c'est pas, ça aurait pu, on n'a pas subi l'ensemble de leur capacité répressive, disons. Voilà.
D'accord. Pas l'ensemble. Donc ça c'était pour la métairie neuve.
Voilà.
Et ensuite.
Donc ensuite, je suis retourné sur site et ils en étaient à détruire les cabanes qui sont au site. Qui est censé, dans leur projet, accueillir la digue de la retenue d'eau, donc, qu'on appelle le bouillon. Et Donc là, pareil, ça a mis pas mal de temps parce qu'il y avait des gens dans les arbres. Et pareil, c'était négocié, c'est-à-dire que les gens ont négocié, les occupants ont négocié leur départ sous condition pour un lieu en particulier, que l'arbre qui accueillait la cabane ne soit pas endommagé.
Oui.
Promesse qui n'a pas du tout été respectée.
Ah bon ?
Bon, il y a deux grosses branches qui ont été arrachées. Mais la préfète, ça lui pose pas trop de problème de prendre des engagements et de pas les respecter dans la foulée. Enfin bon.
Préfète du Tarn.
Mmh. Voilà, préfète du Tarn, Anne Chevalier. Et ensuite, donc, il y a une autre parcelle qui avait été sur lesquelles il y avait une installation de fortune. La préfecture en a profité pour l'expulser dans la foulée, alors que c'était pas clairement dans son mandat, mais bon, elle en a profité. Et donc, du coup, c'est là qu'il y a une petite organisation qui s'est montée pour essayer de faire une résistance symbolique un petit peu plus déterminée. Et donc là, ça s'est soldé par... en fait, il y a une chaîne qui s'est organisée. Et donc, des gens qui se sont enchaînés hein, pour rendre l'expulsion un peu plus compliquée. Et ça s'est soldé par les gens qui se sont fait traîner simplement par les gendarmes. Ensuite, on a assisté... à la destruction des lieux de vie et au final les occupants se sont retrouvés un petit peu pour faire le bilan, pour décompresser un peu, etc. et attendre que les gendarmes se barrent quoi pour pouvoir se réapproprier les lieux.
Voilà, parce qu'on rappelle donc c'est finalement plus ou moins la même méthodologie que le 27 février.
Voilà, en fait. Alors c'est la même méthodologie, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'affaiblir le mouvement d'occupation, hein, croit-il, c'est-à-dire que en nous virant, ils espèrent nous désorganiser, mais nous dans notre état d'esprit, c'est pas une défaite, c'est pas bien grave, parce que concrètement, l'objectif pour nous c'est de défendre la zone, et la zone n'était pas menacée. Donc nous, ce qu'on avait à y gagner dans cette histoire, c'était d'ébruiter un petit peu la lutte, et on s'y attache à le faire, puisqu'il y a donc un événement répressif dont on espère communiquer dessus, quoi. Après, on n'avait pas grand-chose à défendre, dans le sens où la forêt n'était pas menacée, donc notre résistance était symbolique. On n'allait pas se mettre en danger ou s'exposer de façon... trop importante pour défendre quelques bouts de plastique et quelques cabanes, même si il faut voir que la ZAD c'est aussi un lieu de vie hein, pour des gens qui ont des modes de vie mais qui sont pas les modes dominants de la société, c'est-à-dire des modes de vie un peu itinérants, faits d'habitats légers, de rencontres spontanées, de déplacements réguliers, etc. Et pour eux, eh bien, c'est une énième expulsion. Mmh. Et c'est un peu le quotidien des gens. Pour les dirigeants, on appelle ça la marge, hein, les gens à la marge, mais voilà, c'est leur triste réalité. En tout cas, tout le monde reste déterminé, reste bien soudé, et voilà, on n'est pas là pour lâcher du terrain. C'est-à-dire que on va revenir. Stratégiquement, on n'a pas perdu grand-chose, et on compte bien revenir de plus belle, surtout quand les enjeux seront d'autant plus élevés que la forêt sera menacée à nouveau.
Ça, on le sait d'ores et déjà, en fait. Quand la forêt, justement, de Sivens sera à nouveau menacée, on le sait.
Dans le calendrier de la préfecture, c'est le déboisement est autorisé à partir de septembre. Donc, pour nous, il est clair qu'à partir du mois d'août, on va s'organiser pour multiplier les modes d'action, augmenter l'efficacité de la présence sur place. C'est pas fini, c'est clairement pas fini. La phase d'occupation, deviendra particulièrement importante à ce moment. Voilà. Il faut voir que l'occupation sur le terrain, c'est qu'un aspect de la lutte, c'est pas une finalité, c'est une stratégie. Et elle sera extrêmement pertinente à partir de la fin de l'été.
Voilà. D'accord. Donc on rappelle aussi, j'ai oublié de te présenter aussi, tu fais partie du collectif Tant qu'il y aura des bouilles, Sylvain.
Voilà, qui est le collectif qui s'est mis en place lorsque le constat que l'action juridique n'allait pas suffire était devenu évident. C'est-à-dire que on aimerait bien y croire à la justice, mais à un moment, il faut s'opposer, si on ne fait rien, bien les tractopelles arrive et en 3-4 jours, c'est plié, il n'y a plus de forêt. Donc à partir de ce moment, ce collectif s'est monté pour retarder, d'ailleurs avec succès, pour l'instant, le projet.
Le projet, donc on rappelle que c'est en fait un énorme destruction d'une grande partie de la forêt de Sivens pour y faire donc un énorme barrage qui doit alimenter en eau quelques dizaines d'agriculteurs maïsiculteurs qui ont besoin de beaucoup d'eau pour cette culture très gourmande en eau. Et ça, on le voit que ce n'est que le haut de l'iceberg de ce projet.
Voilà, c'est un projet qui cumule les casseroles, c'est un cas d'école de conflits d'intérêts et d'actions avec les institutions publiques, avec de l'argent public, au bénéfice d'une entreprise publique, donc au bénéfice de ses actionnaires qui sont rémunérés au pourcentage du chantier, et au bénéfice de quelques membres de la profession, quelques agriculteurs, mais on parle de quelques dizaines. Qui ont un modèle d'agriculture intensif, donc la maïsiculture en pleine, basée sur l'irrigation, dont on connaît les limites, et dont je ne vais pas entrer dedans tout de suite.
Voilà, et on sait donc effectivement dans les implications, il y a bien sûr l'État qui ramène des projets depuis 40 ans, donc aujourd'hui c'est le maïs, mais avant c'était une base de loisirs, et avant c'était encore autre chose. Donc il y a aussi l'État qui est vraiment partie prenante là-dedans, par le biais de la préfète du Tarn, et on sait aussi que la CACG, tu me rappelles ce que ça veut dire?
Voilà. Alors, c'est la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, c'est la fameuse société publique qui est... Enfin, c'est une économie mixte, mais peu importe, qui est en charge du projet, et donc qui, paraît-il, a des difficultés financières ces jours-ci, et la préfecture lui propose un contrat, clé en main, de construction, puis de gestion de la retenue d'eau, et donc qui tombe à pic, vu ses finances mal en point, et il faut préciser quand même que... c'est le maître d'ouvrage, donc c'est la compagnie qui a fait les études en amont du projet, et elle est rémunérée au pourcentage du chantier. Donc elle a tout intérêt à gonfler, à surdimensionner le projet, à en faire quelque chose de pharaonique, tout ça pour une retenue d'eau pour 20 producteurs de maïs.
Et donc la CACG, si je me rappelle bien, donc on trouve aussi donc dans ses actionnaires rien de moins que des conseillers généraux.
Un
conseiller général, non?
Alors, je les connais pas exactement les relations, je vais être honnête, les parties prenantes. Oui. J'ai compris que, de la part du collectif Testet, du travail qu'ils ont fait en amont, qu'il y a des parties prenantes de cette compagnie qui se retrouvent au Conseil Général. Après, je serai incapable de les nommer, donc je vais pas me lancer dedans.
Par contre, je crois qu'on peut trouver tout ça sur le site du collectif qu'il y aura des bouilles. Il y a beaucoup d'informations.
Le collectif tant qu'il y aura des bouilles, et en particulier du collectif Sauvegarde pour la zone humide du Testet, qui a fait un énorme travail de documentation et de contre-argumentation, en fait, qui a fait le débat public, qui a produit le matériel nécessaire au débat public, que la préfecture et le conseil général évitent soigneusement depuis longtemps. Donc voilà, il faut pas perdre de vue aussi notre objectif, c'est que je parle au nom de moi personnellement.
D'accord.
Mais chacun a son opinion sur le projet. Moi, si on me demande, j'aurais plein de choses à dire sur ce qu'on peut faire dans cette vallée, mais la priorité, c'est de retarder ce projet pour que le débat puisse avoir lieu. Peu importe les opinions de chacun, c'est simplement que aujourd'hui le débat n'a pas eu lieu. C'est un projet qui a été mené en secret parce que, à mon avis, les autorités ont peur du débat parce que leur projet est pourri.
Ouais.
Et que voilà. Et qui va nous laisser la chance de l'exposer à quel point ce projet est pourri.
D'accord, et qu'il va coûter quand même 10 millions d'euros au bas mot, aux contribuables.
Aux contribuables.
Quand même, dans une période où, paraît-il, tout le monde doit serrer la ceinture.
Voilà.
D'accord. Et le moral des troupes, Sylvain, comment il va? Comment il va le moral des troupes? Le moral des troupes.
Ouais. Alors le moral des troupes, la détermination est intacte. Faut voir que après ce que je disais, c'est qu'effectivement les gens pour qui c'était la zone, pour qui c'était les lieux de vie, c'est un coup dur. Mais c'est évidemment un coup dur, mais il faut voir loin. Et je me répète, mais on n'avait pas grand chose à à perdre, c'est, je veux dire, l'enjeu pour nous, c'est la protection de la zone et le débat public sur le bien fondé de ce projet. Donc, voilà, c'est une manche qui s'est jouée. On est loin d'être abattu. Alors, c'est peut-être une phase un peu difficile parce qu'une expulsion, c'est jamais agréable à vivre.
Et oui, et oui. Et la destruction de tous ces beaux bâtiments qui avaient été bâtis et tout.
Mais en même temps, on se lance dans cette lutte en sachant que ça va être compliqué. Et oui, c'est compliqué, c'est pas gagné, mais il est hors de question qu'on abandonne, quoi. Donc le moral, on s'était préparé à ça. Ça fait partie de. On sait que c'est malheureusement le genre de situation dans laquelle on aura à faire face. Donc voilà, c'est un coup dur, mais on n'est pas pris au dépourvu et on n'en restera pas là.
D'accord. Les assemblées générales du dimanche à 17h, c'en est où ?
Alors, donc moi, le dimanche dernier, j'y étais pas, mais de ce que j'en sais, c'est que la maréchaussée surveille de très près s'il y a réoccupation. Donc à la dernière AG, j'ai eu quelques nouvelles. Il y avait un rassemblement et je pense qu'en fait, si les autorités se rendent compte qu'il y a réoccupation, et bien dans les 48 heures, ils peuvent agir en dehors de toute procédure. Donc ils ont tout intérêt à surveiller au quotidien ce qui s'y passe. Donc la dernière AG, elle a été perturbée entre guillemets par une présence policière conséquente. Du coup, j'imagine qu'il y a des discussions. Là, j'ai pas d'informations en la matière. Qu'il y ait discussion sur où tenir des AG. En tout cas, quand elles s'y tiennent toujours, tous les dimanches, parce qu'elles sont nécessaires à l'organisation et l'organisation est nécessaire à la poursuite de la lutte.
D'accord. Donc, tu y seras peut-être dimanche prochain ?
J'espère bien pouvoir y être, oui.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, donc ce n'est qu'une phase et de toute façon, ça va reprendre plein pot. Donc, au plus tard au mois d'août, c'est ça, parce que faut être fin prêt pour septembre quand ils vont vouloir encore menacer donc de détruire la forêt.
Donc, en septembre, il faut, on va reprendre notre action auprès des potentiels déboiseurs, les entreprises qui vont être mandatées, qui vont répondre à des appels d'offres, etc. Donc on va suivre de très près l'activité de la préfecture et on sera sur le terrain pour empêcher que le chantier se fasse.
Oui. Écoute, merci beaucoup Sylvain et puis ça fait chaud au cœur d'entendre ta détermination et je sais donc pour avoir vu pas mal de choses sur le site que cette détermination t'es loin d'être le seul à l'avoir, hein. Donc au contraire. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Écoute, à bientôt puis ils attendent partout.
Exactement, partout. Bonne soirée.